ici pour pas que les videurs me triquent.
Merci infiniment de votre écoute, c'était Encycli, c'était Marianne. Et tout à l'heure, on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle, ce mois-ci consacré à Benny Banane.
10-5 landos, un bon morceau, mais ce soir c'est sûr qu'aura de bons morceaux. Dans les poches, plein de bifetons, quoi m'amuser.
Ça se passera toujours sur Cause Commune, et donc toujours sur 93.1. A plus tard.
C'est pas synchronisé qu'on a répété à 10, moi et mes complices. Même longueur d'onde, j'ai déjà choisi ma go. Pour mon pote, j'ai repéré le blonde. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en la coste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Son vieux poste, c'est nos bons délires, on les a pas oubliés.
Et les policiers, ça peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas. Pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi.
causecommune.fm
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Parcours libriste avec Maude Royer. On va parler de son parcours de développeuse, de logiciels libres et aussi de ses engagements. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de G sur IA partout, justice nulle part. Et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calam qui nous parlera d'Ivan Illich. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 17 septembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chomard. Bonjour Julie.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de G. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend, l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Alors aujourd'hui, G n'est pas avec nous au studio en direct, il y a eu un empêchement, donc ça va être une rediffusion. Le thème du jour, IA partout, justice nulle part, rediffusion d'une chronique diffusée en mai 2024.
Salut à toi, public de Libre à vous. Allez, ça y est, là, je crois qu'on y est. Cette fois, l'IA, j'en ai officiellement plein le cul. Ouais, pardon pour le langage, mais fallait que ça sorte. Non, là, je n'en peux plus d'entendre parler d'IA 10 fois par jour. Sérieux, j'en suis presque à regretter la mode des NFT ou même le métavers. Qu'est-ce qu'ils ont tous, là? C'est le printemps, c'est ça? La nature se réveille, les abeilles se replongent dans les fleurs et les start-upers dans la coke? Non, mais il y en a marre. Alors, je connais pas l'avenir, hein. Peut-être qu'on est au début d'une nouvelle ère et que l'IA va devenir aussi omniprésente et incontournable que les ordinateurs ou Internet. Et que moi, là, en vieux paumé, je suis peut-être comme Pascal Nègre qui déclarait en 2001 « Internet, pff, on s'en fout, ça marchera jamais ». N'empêche que l'IA, en tout cas celle d'aujourd'hui, l'IA générative, celle qu'on nous vend à longueur de journée, ça ressemble quand même de plus en plus à une très grosse bulle. Tout le monde en parle, tout le monde essaie d'en intégrer partout très vite, et comme ça coûte une blinde, c'est pour l'instant un gouffre à pognon. Quand il va être l'heure de rentabiliser tout ça, à mon avis, ça va faire mal. Tu connais l'histoire, lors de la ruée vers l'or, ce sont surtout les marchands de pelles qui se sont enrichis. Et là, à part Nvidia et ses cartes graphiques, j'ai du mal à piger qui va ressortir gagnant de tout ça. Jusqu'à Google qui, pris de panique, veut sortir très vite une version IA de son moteur de recherche. Alors ça faisait quelques années que les gens remarquaient que les résultats de Google étaient de moins en moins bons, car tellement tournés vers la pub qu'ils en venaient gangrénés par des sites d'e-commerce bidons, reléguant les résultats pertinents, mais non lucratifs, bien loin derrière. Eh bien, il y a fort à parier que tu regretteras bientôt ces résultats déjà pas folichons. Google utilise désormais par défaut Gemini, son intelligence artificielle, qui, au lieu de te retourner juste une liste de sites, répond directement à ta requête via IA, en assimilant et en recrachant de façon plus ou moins exacte, mais plutôt moins, les informations glanées sur Internet, enfin les informations volées sur Internet, hein. Ah oui, parce que le droit d'auteur, quand c'est pour emmerder ton ado de 14 ans qui a piraté le dernier Taylor Swift, les pouvoirs politiques sont main dans la main avec les multinationales pour te pondre des Adopi et bloquer les domaines comme The Pirate Bay à tour de bras. Bah alors le droit d'auteur, quand c'est Google et Microsoft qui pillent tranquillement l'intégralité de tout ce qui est publié sur Internet, alors là, on s'en fout, mais on s'en fout. Non mais bravo, bravo Microsoft, bravo Google, c'est bien les gars, continuez, pillez, pillez. Non non mais tu comprends, c'est de l'innovation, c'est l'avenir. On va quand même pas se laisser enquiquiner par des trucs désuets comme le respect des artistes ou des journalistes. Pff, non mais t'es tellement ancien monde quoi. Bon et puis là je parle juste du côté humain, social, hein. Parlons même pas du côté écologique, hein. On se fâcherait. Ah oui, parce que ça, soudainement, tout le monde s'en fout aussi. Hein. Microsoft s'était fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030. D'ailleurs, leurs émissions de carbone avaient commencé à décroître, mais ça, c'était avant. Hein. Avec le boom de l'IA, les émissions de carbone de Microsoft ont bondi de 30% depuis 2020. Oui, bon, allez, hein, foutu pour foutu, qu'est-ce qu'on en a à secouer ? C'est juste la survie à court terme de l'espèce humaine qui est en jeu. Alors l'argument pour défendre ça, je le connais. Oui, mais ça se trouve, l'IA va nous aider à infléchir le changement climatique. Oui, c'est ça, et mon cul, c'est du pingouin. Non mais pardon, mais ça c'est comme la croissance verte ou l'écologie qui est une chance pour l'économie. C'est s'imaginer que la cause d'un problème va aussi en être la solution, comme si on éteignait un incendie avec du kérosène. Enfin bon, voyons le positif, au moins, avant de crever, on aura pu générer des images d'humains à 13 doigts, des longs textes insipides de marketeurs pour répondre mal à des recherches internet, et puis du code informatique généré automatiquement et incorrect dans 50% des cas. Je crois que c'était les résultats de la dernière étude sur ChatGPT. De toute façon, comme l'IA utilise ce qu'elle trouve en ligne pour s'alimenter et que ce qui se trouve en ligne devient de plus en plus le résultat de génération automatique par l'IA, il y a fort à parier que l'IA va finir par se dissoudre dans elle-même, régurgitant et recrachant son propre vomi en boucle. Essaie donc de compresser la même image en JPEG 1500 fois de suite et tu verras ce que je veux dire. À la fin, t'as plus qu'une bouillie de pixels. Donc on peut facilement imaginer qu'après que le web aura été digéré et recraché 1500 fois de suite par l'IA, il n'en restera qu'une bouillie d'informations. Déjà que certaines IA intègrent des sites parodiques comme The Onion ou Le Gorafi dans leurs sources sans les distinguer des sites non parodiques, ça nous promet une belle dégringolade dans la qualité du web. Et je crois que ce qui me gonfle le plus dans tout ça, c'est que finalement, on en arrive à la négation même de l'informatique. Je m'explique, hein, le gros intérêt de l'informatique, outre la rapidité, c'était d'être fiable. Un programme informatique, à la base, ça part souvent d'un algorithme déterministe, donc de quelque chose qui te garantit d'offrir toujours la même réponse à une même question. Alors oui, c'est pas très fun, mais quand je fais passer un correcteur d'orthographe, il me retournera toujours invariablement les mêmes fautes. Presque chiant, hein, mais c'est pratique, c'est utile. Alors que le principe même des IA génératives qui ont le vent en poupe actuellement, c'est d'imiter l'être humain. Et pour imiter l'être humain, bah, il faut avoir des réponses variées avec son cortège d'erreurs. On a donc maintenant des algos non déterministes, avec des tas de biais intégrés au passage, dont très peu de gens pigent réellement le fonctionnement, qui mâchonnent des quantités délirantes de données pour en déduire des moyennes statistiques à la pertinence très variable, et qui consomment 3 forêts amazoniennes par an, mais ça je l'ai déjà dit. Et on s'interroge avec gourmandise, mais est-ce que l'IA va bientôt dépasser l'être humain ? Question débile à mon sens, hein, car ça fait belle lurette que les ordinateurs ont dépassé l'être humain sur tout un tas d'aspects, et notamment sur la rapidité, comme je le disais. Exemple, si je te demande de me trier 1 million de documents selon leur date, ça va te prendre des heures, sans doute des jours, voire des semaines, j'ai pas fait le calcul, hein, mais ça doit être dans ces eaux-là. Alors que si tu lances un programme de tri pour ce million de documents, au moment où ton doigt se relève de la touche entrée, ton million d'éléments est déjà trié. Et ça, c'était déjà le cas il y a 20 ans, hein, et sans IA, juste avec des algorithmes bien foutus. Et c'est ça qui est cool avec le numérique. Pas d'avoir des chatbots qui arrivent à imiter Jean-Michel Delaconta pour passer le test de Turing. Bah, je vais pas te refaire ma vieille BD qui s'appelait « Les ordinateurs sont cons », mais l'intérêt de l'informatique au départ, c'est de faire très vite et avec beaucoup d'efficacité tous les trucs chiants et répétitifs que les êtres humains font mal et lentement. Pourquoi ? Bah, pour nous libérer du temps pour des tâches plus épanouissantes. Au lieu de ça, l'IA nous pique les tâches épanouissantes, en les faisant mal, une fois sur deux, mais beaucoup plus rapidement que nous, tandis que les boulots précaires se multiplient. On voulait des robots qui fassent le ménage pendant qu'on apprenait la musique, on se retrouve avec des robots qui peuvent composer 15 000 chansons à la minute pendant que des travailleurs et travailleuses sont sous-payés à corriger leurs erreurs en boucle. Super. Après, soyons honnêtes, IA ou pas, la culture de masse est déjà produite à la chaîne par des algorithmes. Évidemment, les scénaristes Netflix qui ont un manuel hyper détaillé avec les bonnes ficelles, les bonnes recettes, les bonnes intrigues à dérouler en boucle, série après série, est-ce qu'on verra vraiment la différence si on les remplace par des IA ? L'IA fait exactement ce que Netflix veut, produire le résultat statistiquement le plus attendu, celui qui satisfera en moyenne le plus de monde, à la chaîne, de plus en plus vite. Et l'art dans tout ça ? L'art, ben, je crois qu'on sait très bien comment ça va finir. L'IA, ça ne va pas remplacer tous les artistes. Ça va devenir le low cost de l'art, du journalisme, de tout ça. Des trucs passables, statistiquement moyens, produits à la chaîne pour de la consommation de masse, comme on produit de la malbouffe industrielle pour les pauvres, tandis que les riches continueront à avoir les moyens de se payer des artistes et des journalistes pour avoir accès à du contenu de qualité garanti sans IA, comme on achète de la bouffe bio garantie sans pesticides et additifs. Bon, on va sans doute me dire que cette chronique est quand même vachement manichéenne et sans doute caricaturale. Oui, c'est vrai, et il y a probablement du positif dans l'IA. Allez, tiens, je vais être honnête, j'ai moi-même récemment utilisé un traducteur automatique basé sur de l'IA pour communiquer avec une personne qui ne parlait ni français ni anglais, et de langues que je maîtrise. Oui, c'était vachement pratique et incroyablement efficace. Mais ceci étant dit, j'ai quand même hâte que cette bulle de l'IA éclate, et je nous souhaite à toutes et tous qu'elle ne fasse pas trop de dégâts, car en attendant, c'est une grande part de nos espaces numériques qui risque d'être colonisée et pourrie par des IA mal finies, au nom du fameux « Move fast and break things », l'ancienne devise de Facebook, « Allez vite et tout casser », en gros, un joyeux programme. Allez, sur ce, je te laisse et je m'en retourne à mes petits dessins garantis sans IA, mais qui iront sans doute nourrir les IA des GAFAM, parce que, licence libre ou pas, de toute façon, les GAFAM se torchent avec le doigt d'auteur. Je vais peut-être commencer par dessiner des personnages à 13 doigts, du coup, juste pour les emmerder. Allez, salut.
Bah écoute, merci G, et on renvoie les auditrices et auditeurs qui veulent découvrir ces BD certifiés sans IA sur ton site, hein, grisbouille.net, et je vais juste rappeler, pour peut-être les plus jeunes, expliquer que Pascal Nègre, c'est l'ancien directeur ou patron d'Universal France, hein. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, il est peut-être toujours chez Universal. En tout cas, donc c'était la chronique Les Humeurs de G, dont le titre était « IA partout, justice nulle part ». Bon, je te demande pas la référence.
Mais on voit... En fait, pour la petite histoire, j'ai un ami qui, dès qu'on dit quelque chose qui finit par « partout », il rajoute toujours « justice nulle part ». Ce qui fait que j'ai du mal à dire « partout » maintenant sans avoir « justice nulle part » derrière.
Alors, nous sommes de retour en direct mardi 17 septembre 2024. Donc, vous venez d'écouter une rediffusion d'une chronique de G, IA partout, justice nulle part. Je vous rappelle que le site de G, c'est grisbouille.net. Vous pouvez soutenir son travail ou lui passer des commandes. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous passerons à notre sujet principal qui est le parcours libriste de Maud Royer. En attendant, nous allons écouter Yesterday par Killy Maze. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. See my tree. I've been learning every day. Been working hard with little play. And thanks for all the negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me. I disagree. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. The stars light before we see. I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above. Not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. I think that I can find a light. Fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others and we will all be free. Cause if I'm secluded, then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bore my soul with each new verse. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away.
Nous venons d'écouter Yesterday par Killimez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal intitulé « Parcours libriste ». Alors le parcours libriste, l'idée c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Un parcours individuel, certes, mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invité du jour, Maude Royer. Bonjour Maude.
Bonjour.
Alors, j'ai lu sur ta page web que tu étais... Alors, avant, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et je salue les personnes qui sont déjà présentes sur ce salon. Alors, j'allais dire donc que sur son site web, c'est marqué développeuse web et experte en stratégie numérique de mobilisation et de plaidoyer. On reviendra évidemment là-dessus. Mais la question traditionnelle que je pose dans les parcours libristes, l'émission va être consacrée à te présenter, mais j'ai envie de te demander comment toi tu te présentes quand par exemple tu vas à une soirée ou quand tu rencontres des personnes et que les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelle réponse tu fais?
Ça dépend vraiment. Alors déjà, je vais dans beaucoup de soirées où les gens me demandent pas qu'est-ce que je fais dans la vie parce que Enfin, je suis une personne trans et les milieux trans, c'est des milieux où il y a beaucoup de chômage et quand la plupart des gens n'ont pas de travail, c'est pas trop des questions qu'on
D'accord,
pose
okay,
de manière si franche. Mais bon, ça m'arrive aussi d'aller dans des endroits où on me la pose. Généralement, je réponds assez franchement sur ce que je fais en ce moment. Et en ce moment, globalement, je suis freelance, développeuse freelance à mi-temps à peu près pour plusieurs clients, dont l'incubateur des services numériques de l'État, la DINUM, pour qui notamment je développe des logiciels open source depuis quelques années.
Donc, je précise que la DINUM, c'est la Direction Interministérielle du Numérique.
Oui, c'est ça, pardon. Et aussi que je travaille à mi-temps, en fait, pour mon association. Mais ça, je le fais de manière entièrement bénévole, qui est une association féministe et trans qu'on a créée en 2020 avec quelques amis et qui fait du plaidoyer pour les droits des personnes trans et les droits des femmes. Je rentre pas forcément dans les détails selon l'interlocuteur que j'ai en face, évidemment, parce que c'est des questions suscitent des réactions des fois un peu hostiles ou tout du moins désagréable. Mais voilà, c'est généralement ce que je dis. Et puis des fois, je raconte aussi un peu ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est la partie experte en stratégie de mobilisation. Et notamment, j'ai été très longtemps responsable des outils numériques à la France Insoumise, où j'ai construit, en gros, pendant deux campagnes présidentielles, celle de 2027 et celle de 2022, et où j'ai construit avec une équipe...
2017 et 2022.
J'ai dit 2027.
Tu anticipes peut-être.
Oui, j'anticipe. non, mais c'est bien 2017 et 2022. Et où j'ai développé plein de choses, mais notamment le réseau social Action Populaire, qui est la plateforme de mobilisation qu'utilisent les militants insoumis pour organiser la vie du mouvement, les groupes d'action locaux, les événements, etc., qui est à la fois un site et une application mobile.
D'accord.
Et qui est aussi un logiciel libre.
Ok, bon, de toute façon, on va en reparler. Tu n'as pas cité le nom de ton association, tu peux la citer.
Hein. L'association, c'est Toutes des Femmes.
Toutes des Femmes, voilà.
Toutesdesfemmes.fr.
Voilà, on reparlera de ce sujet sans doute un petit peu à la fin, parce qu'en plus, tu as une actualité dans la librairie, avec un livre qui sort bientôt, mais on en reparlera à la fin. Donc, on comprend bien, on va surtout axer la discussion sur la partie développeuse, logiciel libre, et l'intérêt du le parcours libre, ce principe, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là, comment tu as découvert l'informatique, le logiciel libre. Donc, question un petit peu traditionnelle, à quel moment dans ta vie tu as découvert alors, l'informatique et ou le logiciel libre, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais tu as commencé à t'intéresser à ces sujets-là. C'était vers quel âge, dans quel contexte?
Assez jeune, j'étais au collège. 5e, 4e, on a 12-13 ans, je crois, en 5e, 4e. Je suis de décembre en plus, donc... bon, mes amis jouaient beaucoup aux jeux vidéo. Moi, j'avais pas l'argent pour payer l'abonnement à World of Warcraft à l'époque. Et donc, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur en conversation avec eux, mais avec rien d'autre à faire, pour le coup, de mes mains. on avait un ordi qui ne permettait pas de faire tourner les derniers jeux, etc.
Chez vous, tu avais
j'avais,
un seul
ordi de ma mère.
Voilà, c'est l'ordi de ma mère.
Okay.
T'avais pas ton ordi à toi.
En tout cas, au début. Ouais. Et je pense que j'ai commencé à cette période un peu aussi pour passer le temps, bidouiller un peu. Alors, je saurais pas exactement dire comment ça a commencé. J'ai pas le souvenir du détail. Mais très vite, j'ai terminé sur ce qui, je pense, est le cas de beaucoup de personnes de ma génération sur ce qui était le site du zéro à l'époque.
Ouais.
Et j'ai appris un peu le développement web.
Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est que le site du zéro?
C'est un site qui était juste un site
de ressources
plein de tutoriels pour apprendre à développer. Alors, je crois que j'ai commencé par le langage de programmation C, que je n'utilise plus du tout aujourd'hui, évidemment.
T'as pas choisi le plus simple, hein.
Mais parce que c'était le tutoriel qui était en haut du site. Et puis après, bon, j'ai fait des langages de programmation plus pour le web. J'ai fait du HTML, du CSS, du JavaScript. Et avec très tôt, l'idée de je vais faire un site internet, ça va me permettre de gagner de l'argent et je pourrais payer mon abonnement à World of Warcraft.
D'accord.
Il y avait très tôt cette idée-là. Et donc, au départ, pas trop d'intérêt particulièrement pour le logiciel libre.
Question, je suppose que ton ordinateur était sous Windows ou Mac peut-être.
Il était absolument sous Windows et était même sous Windows Millennium alors que c'était la période de Windows XP.
D'accord, ok.
Et j'avais pas le droit de passer trop de temps sur l'ordi, donc j'imprimais les tutoriels et je les lisais le soir dans ma chambre. c'était un peu sport. Et puis plus tard, je pense au début du lycée, j'ai eu mon propre ordinateur. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est venu, mais peut-être parce que je développais déjà pas mal. J'ai installé Ubuntu en dual boot, c'est-à-dire on gardait Windows et on installait Ubuntu, donc qui était un peu la grosse distribution Linux facile d'accès.
Grand public, on va dire,
entre guillemets. Grand public, ouais. Ouais. Et je pense que j'ai commencé avec la 7.04, et comme les distributions Linux sont datées en fonction des années.
Donc c'était en 2007 ?
C'était en 2007.
D'accord.
Où j'ai commencé avec la 8. En tout cas, je me souviens de la version 8.
Donc quand tu parlais de génération tout à l'heure, tu as la trentaine, quoi, c'est ça ?
Ouais, j'ai 31 ans, moi.
D'accord, ok.
Et à ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur le logiciel libre. Ça a été un peu très important dans ma trajectoire parce que j'ai trouvé l'idée de la licence libre, de comment on utilisait un peu par une sorte de retournement juridique le copyright finalement pour créer du partage de propriété intellectuelle.
Ce qu'on appelle le copyleft, c'est-à-dire gauche d'auteur. Ouais.
J'ai trouvé ça très intéressant et j'étais un peu obsédé sur... J'ai commencé à réfléchir un peu comme quand on est ado et qu'on se dit qu'on a des idées sûrement géniales, alors qu'en fait c'est juste qu'on en a discuté avec personne. Et évidemment, il y a des tas de gens qui y ont pensé aussi. Mais j'ai commencé à réfléchir à comment on peut étendre cette idée à d'autres domaines que l'informatique, etc. Enfin, j'étais un peu obsédé par ça. Et en même temps, je continuais à progresser en informatique. J'ai lu des manuels d'informatique à ce moment-là, qui étaient vraiment des manuels normalement de cours. J'ai arrêté un peu juste le site du zéro et j'ai commencé à acheter des gros manuels sur les systèmes d'exploitation, sur les réseaux, etc.
Et donc, comme c'était au lycée, c'est une période où on se pose des questions, ou en tout cas, les parents se posent des questions sur l'avenir. Est-ce que l'enfant va faire? Est-ce que toi, tu t'es dit, je vais m'orienter sur de la programmation, sur de l'informatique?
Eh ben, pas du tout.
Pas du tout?
Parce que, bon, parallèlement, j'ai commencé aussi à rentrer dans le militantisme politique par d'autres aspects. Enfin, il y avait, la loi d'Arcos, la loi Châtel, qui étaient des réformes de l'éducation. À cette époque-là, on bloquait.
C'est d'anciens ministres de l'éducation, ouais.
Ouais, voilà. Moi, j'ai bloqué mon lycée, quoi.
Normal, quoi.
j'étais dans les coordinations. J'étais à Lille, hein, donc dans les coordinations municipales des différents blocages de lycée, etc. Et je pense vers la fin du lycée, j'ai un peu laissé ça de côté dans ce qui était mon engagement politique, mais j'ai quand même j'allais à des rendez-vous de libristes à Lille. Je suis allé 2-3 fois, je sais plus comment ça s'appelait.
Stinux.
Non, je pense que ça s'appelait autrement à l'époque.
Okay.
Vraiment, je sais pas, c'était au Café Citoyen, je crois que ça existe plus à Lille.
Alors, je sais pas si ça existe plus parce qu'il y a eu la Bradley Lille ce week-end et je sais qu'il y avait un stand logiciel libre où il y avait Chtinux. Donc, Chtinux, c'est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Ouais. Et ils faisaient des ateliers au Café Citoyen, parce que j'y étais il y a quelques années. Mais peut-être qu'il y avait plusieurs groupes, en fait.
Mais peut-être, non, mais peut-être c'était ça. Et
donc, t'as fréquenté en tout cas des personnes qui étaient.
Je suis allé à deux, trois réunions.
Ah, c'est tout. D'accord, ok.
J'étais pas très assidu. Mais ouais, toujours ce truc vraiment quand même très important dans ma trajectoire politique. Du coup, un engagement très tôt, aussi plus largement, sur la question de la propriété intellectuelle, plus largement que sur le logiciel, qui, je pense, m'a marqué aussi pour la suite de ma trajectoire et où aujourd'hui, je dirais que mon intérêt pour la question de la propriété intellectuelle, il est bien plus large que le logiciel libre. Et même, il est peut-être plus centré sur d'autres trucs, sur les médicaments.
Sur les médicaments, par exemple, notamment, sur les brevets.
Sur les brevets, qui pour moi sont vraiment un truc vraiment hyper important.
Et en fait, excuse-moi de te couper, en fait, dès finalement relativement jeune, tu as lié l'aspect logiciel libre à un aspect plus politique que technique, si j'en comprends bien. Enfin, au début, c'est la technique qui t'a intéressé avec le site du zéro, etc. Et puis après, t'as quand même lié l'aspect, t'as vu dans le logiciel libre l'aspect politique, ce que tout le monde ne voit pas forcément.
Très très tôt, mais parce que enfin j'avais des parents très politisés. Enfin, pour moi, c'était un peu difficile de passer à côté. J'étais en filière ES, on faisait de la sociologie et de l'économie. Enfin, pour moi, c'était assez important. Et ensuite, plus tard dans mes études, où pour le coup, j'ai fait une pause dans le développement. Et alors, dans mes études, je me suis pas du tout orienté dans l'informatique.
Alors, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai fait des sciences sociales. J'ai fait en particulier de la socio et de l'éco, comme je faisais déjà au lycée finalement, et j'ai fait un master d'économie. Et je me suis pas du tout orienté dans l'informatique parce que pour moi ça restait un loisir. Et je comptais pas en faire un métier. Alors je pense que il y a plein de raisons, notamment le fait que c'était pas forcément un milieu dans lequel je me sentais hyper à l'aise.
Alors j'ai une question, est-ce que en tant que femme, comment t'as été accueillie dans ces groupes qui sont quand même très fortement masculins, il faut le dire.
Bon, déjà c'était pré-transition, donc j'étais pas une femme à l'époque, mais ça n'empêchait que moi je me sente. En fait, pour le coup, ça c'est un truc qui n'a pas changé avec ma transition, qui était déjà le cas avant. Je me suis toujours senti mal à l'aise dans des espaces très majoritairement masculins. Et donc je pense que c'est ça aussi où genre, enfin vraiment l'idée d'aller dans une école d'ingénieur ou un truc comme ça, vraiment c'était inconcevable pour moi quoi. J'avais pas du tout envie. Et donc oui, ça a été, enfin ça n'a pas vraiment été une question pour moi de faire des sciences humaines, d'étudier un peu de plus près aussi des questions politiques. J'ai fait de l'économie parce que pour moi c'était une des matières les plus politiques qu'on pouvait étudier entre guillemets quoi. Et en fait dans mes études d'économie j'ai choisi particulièrement de m'intéresser à des sujets qui croisaient notamment l'informatique. Et bon, un des premiers trucs que j'ai étudié, mais ça c'était un peu parce que j'aimais bien en économie, il y a ce qu'on appelle la théorie des jeux qui modélise les comportements des gens dans des situations où globalement ils savent pas trop ce qui va se passer. Et donc j'ai bossé sur les modèles, enfin sur une modélisation des systèmes d'enchères de publicité de Google. Qui étaient des trucs qui étaient pas trop modélisés. Enfin, Google a un système avait, je pense qu'il a changé depuis l'époque où j'ai bossé là-dessus, avait un système d'enchères sur ces mots-clés. Enfin, en gros, on achète des mots-clés pour afficher des annonces dans les résultats des moteurs de recherche, qui était un peu spécial, qui combinait plein de caractéristiques, notamment avec des systèmes de prix plancher, etc. Enfin, c'était un peu complexe. Le modèle qui représentait spécifiquement ce mode d'enchères avec tous ces paramètres-là n'existait pas. Donc ça a été le sujet de mon premier mémoire de master. Et ensuite j'ai fait un deuxième mémoire de master. Donc j'aurais pu aller travailler chez Google probablement et aller bosser là-dessus peut-être avec mon master d'économie. Mais du coup ensuite dans mon deuxième master, j'ai travaillé pour le coup vraiment sur le logiciel libre. Et j'étais dans un master avec des économistes plus de gauche, hein, mon deuxième master que mon premier.
C'était quel master?
C'était le master EPOG à Paris 13.
D'accord. À Villetaneuse, donc.
À Villetaneuse, absolument. Okay. Donc avec beaucoup de gens qui travaillent sur les communs, qui travaillaient beaucoup sur les communs et qui, je pense, manquaient encore de gens qui avaient envie de mettre en lien, ce concept des communs développé par, enfin, dans tout un champ de l'économie, mais qui vient pas que de là. Hein. Et le logiciel libre. Aussi parce que c'était des gens qui n'avaient pas forcément de l'expertise technique pour comprendre complètement ce qui se passait avec le logiciel libre et qui m'ont beaucoup encouragé à travailler là-dessus. Et je crois que ça a marqué mon... J'ai fait un mémoire là-dessus sur comment étaient adoptés les logiciels libres dans les organisations aussi. C'est l'époque où j'ai fait un stage à Etalab, qui était donc l'agence des services du Premier ministre qui s'occupait de l'open data.
Des données publiques, oui. Ça existe encore, oui.
Et je crois que ce moment a marqué un peu mon...
Un tournant
pour moi, parce que c'est le moment où je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens, et notamment en particulier des gens avec qui je pouvais discuter dans le cadre de ce mémoire, qui pensent qu'on peut concevoir la question du logiciel libre en dehors de la question de qui en fait, qui l'écrit, à qui les utilise, etc., etc. Et moi, c'est à ce moment-là où, bon, je suis allé travailler, je finissais mes études en 2016, de toute façon, cette page aussi s'est refermée parce que je suis allé travailler dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais si j'étais resté, je pense que je me serais plutôt attaché à essayer de montrer, et c'est ce que beaucoup de gens ont fait depuis, j'ai vu des conférences au FOSDEM il y a 2 ans, je ne sais plus les noms malheureusement, mais 2 personnes qui travaillent là-dessus, mais à montrer aussi comment il y a eu une certaine réappropriation du logiciel libre, d'ailleurs souvent appelé open source et plus logiciel libre, par le capitalisme, et comment il a su en faire aussi quelque chose qui fonctionne à son profit très souvent. Et je pense, j'ai pris beaucoup de recul à cette époque-là. Et du coup, j'ai décentré la question du logiciel libre plus largement sur des questions de liberté numérique. Parce que je pense qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, ou en tout cas que c'est pas pertinent aussi, de penser la question du logiciel libre sans penser la question du capitalisme et de comment le capitalisme concentre aussi ses moyens de production, sa propriété, etc. Je peux détailler éventuellement, mais oui. En gros, moi, le truc vraiment dont je me suis un peu rendu compte à l'époque, c'est, mais en fait, l'open source, comme ils l'appellent, c'est aussi un moyen pour les GAFAM en particulier, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire, de mettre en commun de la R&D. De la recherche et développement, qui va avant tout leur profiter à eux, et qui va profiter de manière générale à tout le secteur, mais ça ne les dérange pas, parce que de toute façon, ça fait des dizaines d'années que le fonctionnement des GAFAM pour maintenir leur position dominante et leur position monopolistique sur le marché, c'est de racheter les petites boîtes. Et donc, ils sont très contents si, entre guillemets, il y a une barrière à l'entrée qui facilite l'innovation. C'est une forme de subvention à l'innovation par les plus gros, dont ils savent que cette innovation par les petits va au final en fait leur profiter, parce qu'ils vont les racheter et qu'ils vont les intégrer à leur monopole. C'est ce truc de, j'avais fait des stats sur on le savait déjà à l'époque, mais j'avais fait des stats sur les commits du noyau Linux.
Sur les modifications faites sur le noyau Linux.
Ouais, et 90% sont des salariés de boîtes très importantes du secteur, en fait.
On peut citer IBM, Google, et puis d'autres. Enfin, j'ai pas les noms en tête, mais c'est vrai que c'est des grosses entreprises qui aujourd'hui contribuent. Donc, le noyau Linux, c'est une partie importante d'un système d'exploitation libre, et sur lequel effectivement il y a beaucoup de grosses entreprises qui contribuent directement.
Et qui mettent en commun, leur coût de développement, quoi. Et en fait, elles y gagnent beaucoup à cette mise en commun. Et plus récemment encore, j'ai un peu étendu la question, et ça, je l'ai fait dans le cadre notamment de mon travail à la France Insoumise, où à un moment, on m'a fait bosser sur le programme numérique, où je me suis demandé, mais dans le... bon, ça, c'est ce qu'a fait l'émergence des GAFAM au logiciel libre. Qu'est-ce qu'a fait l'émergence des GAFAM à des instances de gouvernance de l'informatique, au-delà de la question de la propriété intellectuelle, qui ont émergé dans les années 70-80 ou même dans les années 90, et qui, à l'époque, étaient gérés par... Enfin, c'est l'exemple de l'IETF, qui est un organisme de standardisation internationale qui se met d'accord sur les protocoles
d'Internet, en gros.
D'Internet, en gros, les standards technologiques avec lesquels, sur lesquels tout le monde se met d'accord pour pouvoir communiquer entre eux. Et autant la première version d'HTTP, donc le protocole qui est à la base de la navigation web, a été défini par quasiment que des chercheurs du public, autant HTTP3, c'est le résultat, dans la même instance, d'une discussion entre des ingénieurs de Facebook, des ingénieurs de Google et des ingénieurs de Microsoft. Et en fait, plus personne d'autre que eux n'a de pouvoir réel, ou en tout cas ne peut faire le poids, quand bien même ces discussions se passent au consensus, que c'est pas...
Oui, parce que, donc ce que t'expliques, c'est vrai que dans ces structures, n'importe qui, en fait, en théorie, peut participer, mais ce que tu expliques, c'est qu'en fait, la mainmise de ces grands groupes qui ont des salariés à temps plein pour travailler sur ces sujets-là, fait que finalement, ils orientent les standards de l'Internet vers ce qui les intéresse avant tout, et donc notamment tout ce qui rapporte de la pub, enfin, tout ce qui renforce leur modèle économique, notamment basé sur la pub, les données personnelles, etc. C'est ça que...
Ouais. Exactement. Et en fait, il n'y a plus aucun État, parce que en fait, quand on parle de la recherche publique, on parle de la souveraineté des États. Il n'y a plus aucun État qui se donne les moyens d'agir, par exemple, sur les standards du web. Parce que pour s'en donner les moyens, il faut qu'il y ait des ingénieurs du public qui soient en nombre suffisant et payés pour le faire, pour participer à ces discussions. Mmh. Et ça, c'est pas le cas, quoi. Alors, il y a des gens qui le font.
Quelques-uns, mais pas suffisamment, c'est
ça ? Oui, voilà, vraiment pas suffisamment. Et je pense que c'est complètement en dehors des radars, de toute façon, de tous les gens qui font des grands discours sur la souveraineté numérique, alors que c'est des questions cruciales, les protocoles avec lesquels on communique sur Internet.
Oui. Et on voit ça notamment dans un protocole qui est important, qui est le mail, le courriel, où tout ce qui est gestion anti-spam, etc. Aujourd'hui, c'est les grands qui décident, et on doit se conforter, par exemple, aujourd'hui, à ce que décide en gros Gmail.
Absolument.
Et adapter ses propres règles quand on gère ses propres serveurs de mail, quoi. Donc, ouais. Et donc finalement, à ce moment-là, donc c'était quoi, 2016, c'est ça que tu m'as dit?
Ça, c'est truc sur les organismes de standardisation, c'est des trucs... J'avais écrit ça pour l'Institut La Boétie, qui est le think tank de la France Insoumise en 2021. Donc, des trucs plus récents, mais qui, pour moi, vont dans la ligne de ce truc de le logiciel libre, c'est bien, mais si on ne pense pas la place des grosses entreprises là-dedans...
Donc, c'est une brique essentielle, mais pas suffisante.
Oui, voilà, c'est ça.
Ce qui t'a intéressé dans ton parcours, c'est d'aller au-delà.
C'est d'aller au-delà.
Voilà.
C'est ça.
D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, donc quand tu, en 2000, tu rentres à... Ah, il y a une question sur la zone de chat. Donc, je vais rappeler qu'il y a la zone de chat, le salon web. Hein. Donc, c'est sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Il y a une personne qui te demande quelle différence tu fais entre open source et logiciel libre. Même si tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que tu peux redétailler?
Ben, pour moi, justement, dans le logiciel libre... même si c'est pas explicitement quelque chose d'anticapitaliste, il y a cette volonté de liberté, et notamment de liberté de l'utilisateur final, qui me semble très importante, et donc de liberté individuelle. Alors que vraiment une différence personnelle, hein,
Ton interview, c'est ton parcours libriste, donc.
Alors que pour moi, dans l'open source, il y a vraiment cette idée de on met en commun la propriété intellectuelle, mais donc qui est vraiment une approche économique, quoi.
Utilitaire, même, quasiment.
Et utilitaire, ouais. Et pas du tout de question de liberté individuelle. Enfin, ça me paraît absent de la réflexion dans l'open source, quoi.
C'est souvent les mêmes logiciels qui sont derrière, c'est souvent des licences comparables, mais la philosophie, l'objectif ne sont pas les mêmes, tout simplement. Exactement. Et toi, ce qui t'intéresse plus, c'est vraiment la partie logiciel libre, parce que comme tu dis, tu mets au centre la personne utilisatrice de l'informatique.
C'est ça.
Voilà. Là où les GAFAM et compagnie qui utilisent de l'open source vont l'utiliser pour d'autres fins.
Oui, clairement. Il...
Voilà. Mais est-ce que, alors, vu qu'on est sur ce sujet-là, est-ce que des entreprises du logiciel libre, alors je vais citer aucune, comme ça je me fâcherai avec personne, qui disent faire du logiciel, de l'open source plutôt, excuse-moi, donc qui font du service, soit qui ont soit qui sont éditeurs, enfin, sociétés éditrices d'un logiciel libre, comment tu vois ça, toi? Quelle est ta position par rapport à ça? Là, je parle vraiment de sociétés type plutôt PME, PMI. Hein,
Alors. Je vais dire quelque chose d'un peu... Je ne pense pas que le capitalisme
vas-y.
Soit une force qui apporte que de mauvaises choses. Enfin, c'est plutôt une bonne chose que le monde capitaliste de l'informatique se développe de plus en plus avec l'open source. Quand bien même il le fait à son profit, c'est mieux pour tout le monde quand même que si c'était, on avait que des Microsoft qui font que du logiciel propriétaire et aux sources fermées, qui se font de la concurrence entre eux. Enfin, bon, en vrai, c'est plutôt pas mal que React, qui est une grosse librairie avec laquelle beaucoup de gens font du web aujourd'hui, était rendu open source par Facebook, c'est une bonne chose. Enfin,
oui, parce qu'il y a beaucoup de produits utilisés aujourd'hui par les développeuses et développeurs de logiciels libres qui ont été initiés, même, qui sont même développés par des GAFAM.
Absolument.
En fait. Voilà.
Qui souvent d'ailleurs prennent un peu leur indépendance après.
Ouais. Ouais.
Parce que, comme c'est, quand ça devient effectivement de la mise en commun de capital, prennent pas leur indépendance sous la pression des utilisateurs finaux, malheureusement. Mais quand ça devient effectivement de la mise en commun de capital indispensable un peu à tout le monde, c'est de la pression entre gros acteurs du capitalisme de « est-ce qu'on peut mettre ça en gouvernance partagée, s'il vous plaît ?» parce que c'est quand même un peu embêtant qu'il n'y en ait qu'un d'entre nous qui ait la main dessus. Et c'est pour ça qu'il y a la Linux Foundation, qu'il y a tout un tas de fondations comme ça qui gouvernent des projets open source et qui sont en fait des moyens de gouvernance qu'ont trouvé des grosses entreprises pour gérer ce qui est un capital commun, en fait.
Et arriver à se mettre d'accord dans l'intérêt... De toutes ces entreprises.
De tout le monde, c'est ça. Mais l'utilisateur final a généralement peu son mot à dire dans ce type, dans ce type d'instance, quoi. Mais c'est mieux que du logiciel propriétaire. Enfin, ça, pour moi, ça fait aucun doute et je veux qu'il continue, quoi. Parce que, en vrai, on peut faire plein de choses et on peut notamment, détourner, des fois, ces technologies qui sont mises à notre disposition, pour faire des choses très intéressantes. Et pour moi, c'est tout le sens de la culture du hacking encore aujourd'hui, qui est d'utiliser des choses qui sont là pour faire pas forcément exactement ce à quoi ça sert au début, et en faire quelque chose d'utile à la société ou simplement de rigolo, des fois aussi. Mais
d'accord.
Mais oui, enfin, tant mieux que ça existe déjà. Hein.
Ok. Bah, écoute, je propose qu'on fasse une pause musicale, une petite respiration. Comme ça, après, on va parler justement du hacking et puis aussi ce que tu as fait toi en utilisant ces outils et les outils aussi que tu as développés. Alors, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Burn the Whole Thing Down par Moma Swift. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Let's break into the system and burn the whole thing down. Burn the whole thing down. Let's say-
down.
Alors, nous venons d'écouter Burn the Wolfing Dawn, excusez-moi, disponible sous par MoMA Swift, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Traduction, c'est on brûle tout, visiblement, dans cette chanson. Hein. Je vous encourage à écouter les paroles, en tout cas. Je pense que ça a dû plaire à Maud. Nous allons pas de jingle, non. J'allais faire une erreur. Excuse-moi, Julie. Nous allons poursuivre notre discussion, toujours avec Maud Royer, donc, qui est développeuse web. Experte en stratégie numérique de mobilisation et de plaidoyer. D'ailleurs, on va attaquer bientôt la mobilisation et le plaidoyer, parce qu'on va expliquer ce que c'est. Mais juste avant, on a eu une question donc sur le salon web par rapport à ce que tu expliquais juste avant la pause musicale. Et la question, est-ce que Maud publie sur papier ou sur le web, ou pourrait-on lire toutes ces idées et travaux que tu développes ? Est-ce que tu as publié, donc ?
Je crois que l'article sur les instances de gouvernance... et notamment de standardisation du web, il est plus disponible sur le site de l'Institut Labo ici qui a été refait et les gens n'étaient pas au courant que les bonnes URL sont les URL qui ne bougent jamais.
ou alors qu'il y a des redirections.
Voilà, et donc il est disponible sur mon site perso, maudroyer.fr. Je sais plus quel est le titre, mais
on mettra le lien dans la page de l'émission.
On le trouvera. Le mémoire, pour le coup, que j'ai fait en M2, non, n'est pas disponible, n'est pas publié et ne le sera jamais. Sinon, j'écris de temps en temps des articles sur mon site perso. Et bon, il y a mon livre qui paraît le 9 octobre sur la transphobie en France ces dernières années, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'à présent.
Ça n'a rien à voir, mais autant... Autant l'annoncer tout de suite, parce que des fois, on oublie, on se dit des choses évidentes. Donc, c'est le lobby transphobe hein, chez Textuel, et ça paraît le 9 octobre.
Le 9 octobre, c'est
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Et donc, présente-le en une phrase ou deux.
C'est un livre qui revient sur ce qui est en France depuis début 2020 et une sorte de résurgence des discours transphobes comme on n'en avait pas connu depuis longtemps, et en particulier leur pénétration importante dans le champ médiatique et politique, notamment à la droite et l'extrême droite, qui a été très progressif, hein, qui a commencé en 2020 par quelques personnes, puis en 2021, CNews, Éric Zemmour et Valeurs Actuelles s'y sont mis, puis en 2023, on a eu les premières propositions de loi voulant enlever des droits aux personnes trans, là, il y a quelques mois avant la dissolution. Et donc, c'est un peu un retour sur tout ça, comment ça s'est organisé et comment les personnes trans et leurs alliés peuvent y répondre aussi politiquement. Ça n'est absolument pas un bouquin qui explique ce qu'est la transidentité et qui va vous expliquer ce qu'est la transidentité si vous n'y connaissez rien. Il y a plein d'autres bouquins qui le font très bien, ça n'est pas l'objet. Voilà, c'est vraiment un bouquin sur un combat politique important que je mène parce que je suis concerné au premier chef, mais aussi important pour des milliers de personnes.
Et notamment à travers ton association Toutes les femmes.
Voilà, toutesdesfemmes.fr.
Toutesdesfemmes.fr, dont tu es la présidente, si je me souviens.
Absolument.
Ok. Donc ça sort le 9 octobre, et si vous voulez le commander, il y a une librairie parisienne qui s'appelle À Livre Ouvert, qui est une librairie très sympathique dans le 11e, où vous pouvez le commander, vous demandez Magali. Par ailleurs, elle est présidente de l'April aussi, donc elle est voilà, multitâche elle aussi. En tout cas, multi-activité plutôt que multitâche. Juste avant la pause, tu parlais de choses, de l'intérêt de faire des choses, de l'importance du hacking et de faire des choses rigolotes aussi.
Oui.
Alors, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le hacking ? Quel est ton...
Pour moi, je vais vraiment dire un peu la réponse. La bonne réponse, c'est en français, ça veut dire bidouiller. Mais oui, enfin, c'est vraiment ça. Moi, j'ai appris en bidouillant. J'ai appris quand même parce que le logiciel libre existe. J'aurais pas pu apprendre l'informatique sans le logiciel libre, puisque je ne suis jamais allé à l'école d'informatique et que au départ, j'ai même pas commencé par des technologies web qui sont un peu par essence open source, quand bien même elles le sont pas juridiquement. Puisque c'est pas du code compilé, donc on y a toujours un peu accès. Mais moi, j'ai appris après le C, j'ai eu une grosse période où j'ai fait un langage de programmation dont je ne sais pas s'il est encore très vivant aujourd'hui, mais qui était le Vala, une tentative du projet Gnome de construire un langage de programmation autour de la librairie. Vraiment, ça va être très court. Après, ouais. Je reviens à des choses compréhensibles par tout le monde. Mais une tentative du projet Gnome de construire un langage orienté objet autour de GObject. Et qui donc compilait un langage qui ressemblait un peu à du C++ vers du C, qui ensuite devait être compilé derrière.
C'est l'occasion de préciser qu'en fait dans l'informatique il y a beaucoup de langages de programmation, tout simplement. Il y a WRC, Vala, etc. Voilà. Et par contre, partie logiciel libre, est-ce que c'est le fait qu'on ait accès au code source, par exemple, t'as pu lire du code source et que ça t'a appris des choses ou pas du tout?
C'est la culture de la documentation aussi qu'il y a dans le logiciel libre. J'ai passé ma vie à lire de la documentation. Enfin, du coup, quand j'ai appris le Vala, c'était pour programmer mon propre player audio parce que j'étais pas contente de celui qu'il y avait dans Ubuntu par défaut à l'époque et même de aucun qui existait sous GNOME. Évidemment, j'ai jamais réussi à terminer ce projet seul, mais en fait, j'ai beaucoup appris l'informatique en me lançant dans des projets que je n'ai jamais pu achever parce qu'ils étaient beaucoup plus titanesques que je n'en avais l'impression, mais parce que c'était facile d'au moins essayer. Exactement. Et c'est ça le hacking pour moi, c'est que il y a aucune barrière à l'entrée en tout cas, et donc du coup on peut essayer quoi, et puis on se plante mais on apprend comme ça. Ça coûte rien, le code source est à disposition, ça prend 2 secondes à télécharger.
Et vu ta génération, c'est une génération où il y avait aussi beaucoup de ressources, de forums, etc., par rapport à plutôt à la mienne et celle de Vincent, on va dire. Tu les as utilisées, ces ressources, ces forums, pour par exemple poser des questions ou
Alors,
pas du tout?
J'ai, avec le recul, j'ai étonnamment peu passé de temps sur des channels IRC, sur j'ai peu rejoint des communautés en ligne où il y avait de l'échange par rapport à ce que j'aurais pu faire et même ce qu'il aurait été probablement utile pour moi de faire pour me renseigner. J'ai beaucoup lu en fait, mais j'ai peu contribué à autre chose que du code. Finalement, j'ai eu une période et c'est un peu absurde parce que j'ai vraiment pour le coup donné du savoir à une entreprise privée qui l'exploite commercialement, mais j'ai eu une période où je contribuais beaucoup sur Stack Overflow, qui fait qu'aujourd'hui, donc qui est
un site
de questions-réponses d'informatique, et j'ai répondu un peu à quelques grandes questions qui n'étaient pas présentes sur Stack Overflow, du type est-ce qu'il peut y avoir des race conditions dans un programme à un seul thread, et qui est encore en fait du coup une réponse consultée quotidiennement par des dizaines de gens chaque jour, et qui fait que sur Stack Overflow j'ai un compte avec énormément de points de réputation, comme ils appellent ça, parce que j'ai contribué à un peu 2-3 questions très importantes comme ça.
D'accord.
Mais oui, ça a été tout ce que j'ai fait comme comme participation à des communautés de développeurs.
Alors le temps il passe très vite à la radio. On va revenir sur la mobilisation du plaidoyer et notamment ton implication dans la France insoumise, dans la partie numérique. Donc on a bien compris tes motivations à rejoindre ce mouvement, mais concrètement qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que c'est que le plaidoyer? Parce que peut-être que les gens connaissent d'autres mots, mais le plaidoyer, est-ce que tu peux nous le représenter?
Deux choses, c'est deux choses différentes. Le plaidoyer, c'est plutôt ce que je fais maintenant que ce que j'ai fait à la France insoumise, mais j'ai beaucoup appris à la France insoumise aussi pour faire ce que je fais maintenant. À la France insoumise, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, déjà évidemment j'ai géré l'infra, j'ai géré l'hébergement des gros sites, la France Insoumise.fr, JLM2017.fr, puis Mélenchon2022.fr, avec toujours ce plaisir qu'il y a, je trouve, c'est un de mes défis technologiques préférés, c'est de gérer les énormes trafics qu'on a sur ce type de site internet au moment du 20h où Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature à l'élection présidentielle.
Ou quand il sort une phrase et qu'il y a un pic tout d'un coup.
C'est pas aussi rapide qu'un 20h.
Ah bon,
vraiment, rien ne bat le pic du 20h de TF1 ou France 2 encore aujourd'hui. Parce que la phrase, il faut le temps qu'elle soit relégué par un journal, etc. C'est beaucoup plus étalé dans le temps, même si au final, sur une journée, ça peut faire le même trafic qu'un pic de vraiment de 1 minute 30 qu'on a à un moment après qu'une URL ait été dit à la télé, quoi. Donc, ouais, j'ai bossé là-dessus. Puis ensuite, j'ai bossé sur les outils de mobilisation. Et je pense que ça, c'est des choses qui existaient pas. Trop à l'époque. Je pense quand j'ai commencé le projet Mobilisons, qui est un projet de
Framasoft.
De Framasoft pour développer justement un peu une plateforme comme ça où les militants peuvent poster leurs événements, s'organiser, etc. N'existait pas en 2017.
Ou c'était balbutiant peut-être. C'était,
ouais, voilà, mais en tout cas en 2016 quand j'ai commencé, parce que la campagne de 2017 a commencé avant 2017, il y avait vraiment pas grand chose.
Tu es parti d'outils qui existaient déjà pour les agréger quelque part, ou vous avez carrément fait aussi du développement pour ces outils?
Alors, à l'époque, par manque total de ressources par rapport à ce qu'on voulait faire, et aussi parce que je n'avais pas, entre guillemets, la position dans la France insoumise pour imposer un peu ce que je voulais, on est même parti sur un SaaS au début de la campagne.
Donc c'est un service hébergé ailleurs
pas chez vous, dont on n'avait absolument pas accès aux sources.
C'était Notion?
Notion Builder.
Notion Builder, ok.
Donc
Notion.
Un truc américain en plus. Et progressivement, en fait, on a remplacé une à une les briques de ce truc par du logiciel libre qu'on avait écrit nous-mêmes.
Parce que je rappelle peut-être combien dans l'équipe vous étiez combien en fait à travailler.
Et ben en fait pendant la campagne de 2017 on était seul. 2-3 quoi.
Voilà, ouais, il faut aussi relativiser parce que les gens s'imaginent peut-être que dans les parties il y a des gros
stagiaires quoi, voilà. Qui étaient là.
3 personnes.
Enfin, c'était pas fou quoi. Mais aussi parce que historiquement il y a très peu de moyens qui sont mis dans les campagnes, dans l'informatique, dans les campagnes présidentielle française, enfin comparativement.
Contrairement aux États-Unis.
Oui, mais après il y a aussi beaucoup moins de sous qui sont mis dans les campagnes tout court. Enfin, aux États-Unis, la primaire de Bernie Sanders, c'est 1 € par vote récolté. C'est-à-dire pour ça.
Oui, oui.
Enfin, $1.
D'accord, $1, oui.
C'est phénoménal, quoi. Mmh.
Donc vous avez fait avec les moyens du bord.
Donc on a fait avec les moyens du bord, on a progressivement remplacé, et je pense qu'en octobre. Après la campagne, on avait complètement viré Nation Builder et on tournait entièrement sous logiciel libre.
Octobre 2017 ou 2022?
Octobre 2017.
D'accord, ok.
Et avec un truc sous Django qu'on avait entièrement développé. Donc Django qui est un cadre de développement libre et très bien foutu, je trouve.
Je pense qu'à la radio, il faudrait qu'on prévoie les traductions de tous les termes, et qu'on donne. Parce que même nous, des fois, on réfléchit avant de trouver la version française.
Et
donc
en
ça,
fait,
c'était 2017.
Ouais, ça, c'était 2017. Ouais. On a fait pas mal d'outils de gestion interne ensuite. Et puis en 2022, on a commencé. Là, l'équipe a grossi beaucoup. On a recruté une designeuse, on a recruté d'autres devs, etc. Et là, on a commencé en fait à développer une application qui ressemblait beaucoup plus à un réseau social et qui est devenue actionpopulaire.fr, avec cette idée d'avoir vraiment une plateforme dédiée à l'action qui soit identifiée comme un objet séparé du site lafranceinsoumise.fr. Où il y avait les news, où il y avait les vidéos, des discours, etc., etc. Et alors qu'auparavant, c'était une sous-section du site qu'on essayait justement, au contraire, d'être visuellement la plus intégrée possible au site où il y avait les actus.
C'était aussi
etc.,
peut-être, tu suppose, pour élargir au-delà de la France
Insoumise. Oui, c'était pour élargir. Notamment, en fait, il y avait ce truc où la campagne présidentielle, c'est toujours un moment d'élargissement. Et en même temps, cette plateforme, elle devait aussi faire... les régionales en 2021, donc il fallait un truc effectivement qui soit pas trop siglé France Insoumise pour que les gens qui voulaient faire la campagne présidentielle puissent s'y rendre sans forcément adhérer à la France Insoumise et juste en soutenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ce truc a très bien marché. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a construit. Il y a des tas de gens de partout dans le monde qui nous ont contactés pour en discuter avec nous. Enfin, vraiment,
d'accord. Alors c'est marrant parce que j'ai une remarque sur le salon web qui me dit il n'y a pas eu trop de pubs autour de l'existence de ces sites. Ce qui me surprend parce que enfin, peut-être que je suis trop politisé pour le.
C'est un outil à destination des militants.
Avant toute chose, oui, c'est ça, d'accord. C'est pas des outils à destination du grand public, c'est ça.
Voilà,
d'accord,
c'est, okay. C'est un outil à destination des gens qui ont déjà mis leur adresse email sur Mélenchon2022.fr, qui ont cliqué sur Je veux agir. et on les renvoie vers l'appli qui sert à ça. C'est pas un outil de propagande, c'est vraiment un outil d'auto-organisation.
Donc la remarque est juste en fait par rapport
aux gens. Alors il y a eu de la couverture par la presse spécialisée un petit peu, mais effectivement on en a parlé comme troisième point dans une conférence de presse. C'est un outil majeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022. En tout cas, personne ne peut l'ignorer pour les gens qui ont participé à cette campagne. Mais pour les gens qui ont vu ça de l'extérieur, effectivement, c'est complètement possible d'être passé à côté. C'était pas le but d'en faire la pub. Même si dans des milieux très spécialisés, ça a pu nous aider, je pense. Je me souviens des gens sur Twitch qui comparaient les codes sources des différentes applications des candidats et qui disaient c'est celui de la France Insoumise qui est le mieux écrit, et j'étais très fier.
Il y a aussi l'aspect, effectivement, que dans les programmes de certains partis, dont la France Insoumise, les Verts, les écolos, enfin les communistes et autres, il y avait un engagement logiciel libre et qu'une tradition, c'est de vérifier un petit peu dans les axes qui se passaient. Et donc effectivement, peut-être que dans les années précédentes, c'était utilisé, comme tu disais, des sites extérieurs, et que là, finalement, en 2022, il y avait la mise en pratique de la positionnement par rapport aux axes, avec du recours au logiciel libre. Voilà, c'est... Et aussi l'absence sans doute de trackers type Facebook, Google et compagnie, quoi.
Oui, voilà, Matomo...
Remplacer Matomo, qui est un outil libre d'analyse de site web. Enfin, utiliser Matomo à la place, effectivement, de Google Analytics. Ouais. Alors, le temps passe super vite, il nous reste même pas une dizaine de minutes et j'aimerais finir, après j'ai deux questions traditionnelles, mais surtout sur ton site web tu as indiqué, donc là on a bien compris ton engagement dans la France Insoumise 2017-2022, et sur ton site web tu as marqué, qu'est-ce que je fais, il y a un onglet qu'est-ce que je fais, c'est marqué depuis le printemps 2022 je partage mon esprit et mon temps entre mes deux intérêts, donc d'un côté l'activité de ma société et de l'autre je consacre mon temps libre à militer dans des associations et collectifs sur des projets qui me semblent importants dont tu as parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui a motivé finalement en 2022 ce choix de créer, je sais pas si t'es indépendante ou autre, en tout cas créer une société et finalement d'y consacrer entre guillemets que 50% de ton temps, si je comprends bien.
50%
enfin, à peu près,
ça dépend des moments.
Ça dépend
des moments, c'est pas, je suis pas sur un partage strict. Déjà, le fait que j'ai la chance quand même d'être dans un secteur du marché du travail où on gagne pas trop mal sa vie. Et en même temps, moi j'aime bien bidouiller, j'aime bien faire des projets perso. J'ai toujours un petit projet personnel de trucs que je développe, une petite application c'est pas non plus mon grand kiff de faire de l'informatique pour gagner ma vie. Ça m'allait bien à la France Insoumise parce que c'était militant en même temps, etc. Mais de toute façon, si j'ai pas beaucoup de temps pour militer à côté, qui est mon réel intérêt dans la vie et ce qui me fait me lever le matin, c'est compliqué. Et donc c'est aussi cette volonté, peut-être après tant d'années à la France Insoumise où c'était hyper intéressant et globalement j'étais très en accord avec tout ce que j'ai fait politiquement là-bas, la volonté d'avoir la liberté un peu de consacrer beaucoup de temps à des causes politiques et de faire un peu ce que je veux, notamment de prendre le temps d'écrire ce bouquin. Et cette liberté, je l'ai parce que je suis freelance dans un métier où ça paye bien.
Et freelance avec que du logiciel libre. Tu poursuis sur cette...
J'ai pas besoin, en tout cas, de travailler pour des gens qui font du logiciel propriétaire. Je suis même pas sûr que je gagnerais mieux ma vie. je travaille que avec des gens qui font du logiciel libre. Et je dirais même, je travaille avec des gens qui travaillent sur le logiciel libre. Je travaille notamment sur un logiciel qui s'appelle Hermine, qui est développé par le cabinet InnoCube en partenariat.
Ah oui, de Benjamin Jean, d'accord.
Plein d'autres partenaires et qui permet, qui automatise
Hermine,
une partie.
HER,
oui.
Ah, vous cherchez un mot anglais, moi, d'accord. HERMINE, oui.
Tu vois ce que c'est?
Oui, je vois ce que c'est maintenant, oui. Tu peux expliquer en une phrase.
Automatise une partie de l'analyse juridique qu'il faut faire quand on inclut d'autres logiciels libres dans le logiciel qu'on produit. Et c'est hyper intéressant et ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus parce que je suis quand même un peu une nerd de la propriété intellectuelle.
on a compris ça, effectivement, ouais. D'accord. Ah, ben, ça c'est très cool. Ma dernière question avant les deux questions traditionnelles des parcours libristes, toujours sur ton site, t'as évoqué un moment la charge militante qui repose toujours sur les mêmes personnes. C'est un bout de phrase. Mais en tout cas, la question c'était, je me suis dit, mais dans ton implication militante, comment tu gères justement cette charge militante? Comment tu prends soin de toi? Comment ça se passe en fait?
C'est pas toujours facile. Ce que je fais par exemple à Toutes des Femmes et le choix que j'ai fait depuis que je suis présidente d'y consacrer vraiment beaucoup de temps, choix que je ne pourrais pas faire si par ailleurs j'avais pas cette activité freelance dans laquelle je suis assez souple avec mon emploi du temps. Ce que je fais à Toutes des Femmes, je le fais parce que je sais que c'est pas pour toujours. Je sais que je suis en train de donner du temps à une association qui est aussi en train de se construire, de se développer. On a 5 fois plus d'adhérentes qu'il y a un an et demi, par exemple. Mon souhait, c'est qu'un jour, cette association, elle fonctionne sans que moi, j'ai besoin particulièrement d'y consacrer du temps, parce que j'aurais aidé à l'organiser, à la structurer avec toutes les autres cofondatrices. Mais moi, je conçois beaucoup de mes engagements comme des projets de construction plutôt que de l'investissement de fonctionnement, entre guillemets. Et c'est ça qui, je pense, me donne envie de continuer, de dire que même si j'arrête, il en restera quelque chose parce que d'autres gens en feront quelque chose. Je crois que c'est ça qui me fait lever le matin. Mais des fois, on a aussi ce truc, du coup, si effectivement c'est ça l'intérêt, effectivement, il faut réussir à construire quelque chose. Et ça, c'est là où ça devient stressant et angoissant. Je sais pas trop comment je le gère. J'ai des périodes où je suis très stressé, comme tout le monde, je crois.
D'accord. OK. Alors, les deux questions traditionnelles. Alors, celle-là est un peu particulière parce que c'est un parcours libriste. Normalement, on demande aux personnes qu'on invite de résumer, si possible, en moins de 2 minutes, les principaux messages qu'elles voulaient faire passer. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais? Ou est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Non, peut-être... Je ne sais pas qui nous écoute. Mais j'ai envie de dire... si vous êtes déjà convaincu par le logiciel libre, mais que vous n'y voyez que l'aspect liberté individuelle, allez plus loin et creusez la question de la propriété intellectuelle en général, notamment de la propriété intellectuelle sur la recherche, les brevets, les médicaments, les technologies de santé. Moi, je suis très proche aussi des luttes historiques, par exemple, du VIH et l'histoire d'ACT UP, l'histoire de AIDS et de tous les gens qui ont lutté contre le VIH. C'est une histoire qui ressemble étonnamment à celle du logiciel libre. C'est des gens qui ont lutté contre la mainmise de gens sur des résultats de recherche qui devraient appartenir à tout le monde. Donc creusez là-dessus, je pense que ça va vous intéresser.
Je te laisse juste une petite incise. Il y a une vingtaine d'années, quand la notion des brevets sur l'échelle arrivait, on avait fait pas mal d'actions avec ACT UP à l'époque où Emmanuel Cos était la présidente, parce qu'effectivement il y avait une convergence.
Sur ces luttes-là. Voilà, donc c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer là. D'accord. La propriété intellectuelle, c'est globalement pas ouf.
Et dernière question, est-ce que tu aurais un ou deux conseils de lecture, de podcast ou autre, qui soit en rapport avec toi, avec le livre ou avec autre chose? Quelque chose qui va, fais-toi plaisir, ou quelque chose qui peut faire du bien aux gens?
On a déjà pas mal parlé du livre, donc je comptais le dire comme un des deux. Donc voilà, Le Lobby Transphobe, le 9 octobre, aux éditions textuelles. Et le deuxième, j'ai réfléchi et puis j'ai pas envie de conseiller un bouquin sur le logiciel libre qui sont souvent déjà conseillés, mais je crois que le bouquin qui a été le plus important moi dans ma trajectoire d'informaticienne, qui a fait que je fais ce métier aujourd'hui, que je me suis même passionné pour le noyau Linux et son histoire, etc., ça a été Systèmes d'exploitation d'Andrew Tannenbaum, qui est un énorme manuel sur comment fonctionnent les systèmes d'exploitation, et que j'ai lu peut-être un peu trop jeune pour comprendre tout ce qu'il y avait dedans. Mais à toute personne qui découvre l'informatique en bidouillant, comme moi je l'ai fait ado, et qui n'apprend... Moi, j'ai principalement appris en essayant de faire. C'est aussi bien de prendre du recul et des fois de lire des gros pavés de théorie si vous en avez la force.
Alors, je suis pas sûr que je vais peut-être commettre une erreur. C'était Minix le système que Android.
Minix, c'est le système éducatif entre guillemets qu'a développé Andrew Tannenbaum et qui est un peu l'illustration de son livre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Andrew Tannenbaum, donc il y a un éminent professeur dont Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, a été un des étudiants. Quand Andrew Tannenbaum a vu les premières versions du noyau Linux, il a dit à Andrew Tannenbaum que ça marcherait jamais et que c'était une erreur les choix technologiques qu'il avait fait, parce que Andrew Tannenbaum était pour des choix technologiques complètement opposé à ce qu'a fait Linus dans le noyau Linux. Et dans ce bouquin, Système d'exploitation, il reconnaît son erreur a posteriori d'avoir prêché trop tôt, entre guillemets, pour une certaine architecture qui était bien sur le papier, mais qui en pratique ne pouvait pas marcher aussi bien que celle du noyau Linux. Et c'est très intéressant, le débat historique entre les deux. J'ai beaucoup appris de choses.
Ok, on mettra toutes les références dans la page consacrée à l'émission juste après, sur libravou.org/218, parce que c'est la 218e émission. Écoute, merci Maud, c'était un plaisir de t'avoir. Je vais rappeler ton site web, donc maudroyer.fr. Écoute, passe une belle fin de journée, puis on va faire une pause musicale. Alors, après la pause musicale, nous écouterons la première chronique de Vincent Calame sur son nouveau thème, la convivialité d'Ivan Illich. Et en attendant, nous allons écouter El Refé par San Blas Posse. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter El Refé par San Blas Posse, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april
sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calame, informaticien, libriste, bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Et Vincent, cette saison de Libre à vous, tu entames un cycle sur le livre La convivialité d'Ivan Illich.
Oui, tout à fait. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va pas faire un virage à 180 degrés avec tout ce qu'a dit Maud, puisqu'on nous a beaucoup parlé de lien entre le libre et politique. Donc, on va un peu continuer sur ce thème-là. Et effectivement, je me suis proposé pour cette nouvelle saison de Libre à vous de faire un peu dans le lourd, hein, et nous attaquer un morceau de choix, à savoir les travaux d'Ivan Illich, et puis, donc, comme tu l'as dit, plus particulièrement son ouvrage La convivialité. Alors, qui est cet Ivan Illich? Première question. D'où sort-il et d'où vient cette idée d'en parler? Et bien sûr, quel est le rapport avec le logiciel libre? Donc voilà, c'est une série de questions que vous posez sûrement et auxquelles je vais commencer à répondre dans ma chronique d'aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez vous en douter, hein, le sujet est vaste et une seule séance ne suffira pas. Donc, attendez-vous à ce que je vous parle d'Ivan Illich, plusieurs chroniques d'affilée. Alors, tout d'abord, je dois préciser que c'est pas la première fois que j'en parle. Si vous consultez le magnifique site de Libre à vous, donc www.libreavoue.org, qui, rappelons-le, archive l'intégralité des émissions, vous pourrez retrouver ma chronique du 14 juin 2022 intitulée « Logiciel libre, outil convivial », chronique tenue lors de l'émission 147.
Alors, je vais préciser, comme ce site est magnifiquement bien fait, que pour retrouver directement, il faut aller sur libreavoue.org/147, le numéro de l'émission.
Exactement. Alors, comme le titre de la chronique l'indiquait, j'y parlais déjà d'Ivan Illich et ce en quoi ses travaux trouvaient écho dans le mouvement du logiciel libre. Cependant, pour être honnête, ma connaissance d'Ivan Illich était très lacunaire, elle se limitait en tout et pour tout à une citation de lui dans l'ouvrage de Barbara Nicoloso, Petit traité de sobriété énergétique, ouvrage au passage qui m'a servi de fil rouge pour une autre saison de chronique sur la sobriété énergétique que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Libre à vous. Bon, j'arrête là pour l'intermède publicitaire. Voilà, hein, si vous n'avez pas quoi écouter. Une seule citation, me direz-vous, c'est pas grand-chose. Mais c'est sans doute une des plus célèbres, car j'ai retrouvé cette citation par la suite à plusieurs endroits. Je vais vous la redonner aujourd'hui, car elle résume bien le propos. Elle est extraite de l'ouvrage « La convivialité » paru en 1973. Donc voici la citation. « J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. » Voilà. Lorsque j'avais lu cette citation à l'époque, j'avais fait immédiatement le rapprochement avec le logiciel libre, car la question du contrôle de ce que font nos ordinateurs est centrale dans les logiciels libres. Les logiciels privateurs transforment nos ordinateurs en boîtes noires, dont il ne reste plus qu'à espérer qu'elles font bien ce qu'elles disent qu'elles font, ni plus ni moins. Je m'étais donc promis de revenir à Ivan Illich de manière plus approfondie, de ne pas me contenter d'une citation, mais de lire l'ouvrage en entier, histoire de vérifier que je n'avais pas trop sorti la phrase de son contexte et que je n'étais pas trop à côté de la plaque. Pour m'accompagner dans mes pérégrinations, je suis appuyé sur l'ouvrage « Introduction à Ivan Illich » de Thierry Pacot aux éditions de La Découverte. Donc, Thierry Pacot est philosophe de l'urbain, professeur d'université et a connu Ivan Illich. Je conseille vivement la lecture de cet ouvrage si vous aussi vous avez envie de vous plonger dans Ivan Illich. Vous y trouverez des éléments de biographie, le contexte de rédaction de ses œuvres, leur réception à l'époque, leur prospérité, ainsi que l'évolution de la pensée d'Ivan Illich. Alors le temps est court, donc je ne vais pas entrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Ce sera pour les prochaines. Je vous propose de terminer par quelques éléments de biographie pour cerner qui était le personnage Ivan Illich. Donc, il naît à Vienne le 4 septembre 1926. Son père était croate catholique, sa mère luthérienne d'origine juive. C'est un peu un pur produit de la société cosmopolite héritée de l'Empire austro-hongrois avant que la barbarie nazie plonge la Mitteleuropa dans l'obscurité. Il était polyglotte, parlait allemand, le serbo-croate, l'italien, le français, l'anglais et plus tard l'espagnol, le portugais, le tagalog qui est la langue des Philippines et l'hindi. Excusez du peu. Bon, il n'a pas réussi le chinois. Après des études de chimie et de philosophie, de théologie et d'histoire, il entre dans la prêtrise à 25 ans. Et au lieu d'une carrière vaticane qui s'annonçait brillante, il part aux États-Unis, il devient prêtre d'une paroisse d'immigrés portoricains. Très vite, sa critique de l'Église en tant qu'institution va lui attirer les foudres de sa hiérarchie et il enfonce le clou en animant dans les années 60 un centre de formation de missionnaires et volontaires états-uniens à destination de l'Amérique latine où il dénonçait le modèle de développement imposé par les pays industrialisés. Les années 70 sont sa période la plus médiatique où il publie ce qu'il a appelé par la suite des pamphlets comme « La convivialité » en 1973. À 50 ans, il quitte les projecteurs, devient professeur dans plusieurs universités et se consacre avec un groupe de fidèles à explorer de nouveaux sujets. On distingue d'ailleurs dans sa bibliographie les deux périodes et on parle même de deux Illich. Il meurt en 2002, cohérent avec ses idées, puisque très critique vis-à-vis de l'institution hôpital, il avait refusé de se faire soigner de sa tumeur qui rongeait sa mâchoire. Voilà, c'est une petite biographie rapide qui rappelle aussi combien le personnage était atypique. Eh ben, donc maintenant, il va nous rester plus qu'à plonger dans ses thèses, mais ça, nous le ferons dans la prochaine chronique.
Bah écoute, merci Vincent. Donc tu vas nous faire effectivement toute l'année 2024-2025 là-dessus.
Bah je vais essayer de tenir.
Tu vas essayer de tenir, ok. Donc sur la convivialité d'Ivan Illich, donc c'est la chronique, la première en tout cas, lecture buissonnière de cette nouvelle saison de Libre à vous. Écoute, merci Vincent. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, en ce moment, il y a pas mal d'activités libristes. Vous pouvez par exemple découvrir la cartographie collaborative libre OpenStreetMap. Des animations sont en effet prévues le samedi 21 septembre à Nantes et c'est proposé par OpenStreetMap Nantes. Vous pouvez également découvrir la base de données libre de produits alimentaires créée par toutes et tous pour toutes et tous. C'est la journée Open Food Facts du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre et ça se passe à Paris. Côté communauté scientifique, la conférence PiData. Donc cet événement réunira la communauté du logiciel libre pour le calcul scientifique et les data science. Donc par exemple le logiciel libre Jupyter dont nous avons déjà parlé dans Libre à vous. Ça se passera du mercredi 25 septembre au jeudi 26 septembre à la Cité des sciences et de l'industrie. Le magnifique site de Libre à vous est fait avec un logiciel libre de publication de contenu qui s'appelle Spip, mais il y en a d'autres. Et nos camarades de WordPress, donc un logiciel libre de publication de contenu sur Internet, organisent un camp en Bretagne, vendredi 27 septembre à Rennes, avec notamment des stands, dont celui de l'April. Et vous aurez le plaisir, si vous êtes sur place, de rencontrer ma collègue Isabelle Lavani, que vous entendez régulièrement au studio, au micro de cette émission. Côté radio Cause Commune, je vous rappelle que la radio vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois, donc à partir de 19h30 dans les locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Donc l'occasion de rencontrer le studio, de rencontrer les personnes qui font vivre la radio. Il y a un buffet participatif à la clé. Donc la prochaine rencontre aura lieu vendredi 4 octobre. J'y serai présent. Et à partir de 20h, il y aura une émission en direct spéciale Fête des Possibles, parce qu'en ce moment, c'est la Fête des Possibles. Donc si vous souhaitez présenter une initiative pour construire une société plus durable, humaine et solidaire et que vous voulez en parler quelques minutes derrière le micro, et ben venez vendredi 4 octobre au studio de la radio. Si possible, pour vous faciliter l'organisation, inscrivez-vous sur le site de Cause Commune. Donc tous les détails de ces événements, vous les pouvez les retrouver sur agendadulibre.org et d'autres événements évidemment en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Maud Royer, G en rediffusion, Vincent Calame aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur le site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous poser toutes questions. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission. Pour cela, merci à vous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voulait particulièrement remercier XNX qui nous a laissé un commentaire de félicitations sur le site de la radio concernant les personnes qui sont intervenues dans l'émission 124 consacrée aux actions logicielles libres de la ville de Malakoff. Donc n'hésitez pas à faire de même et nous laisser un commentaire sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavoue.org/218 car c'est tout simplement la 218e émission Libre à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. D'ailleurs, j'en profite vu que j'ai un petit peu de temps pour annoncer que cette nouvelle saison de Libre à vous voit l'arrivée de nouvelles émissions sur Cause Commune. Alors, Julie, je ne t'ai pas prévenu, mais il va falloir que tu te prépares dans 30 secondes. Je suis désolé. Donc, première émission qui arrive sur Cause Commune, c'est du poil sous les bras, proposé chaque mercredi à 21h par la Petite Blanc. entretien avec une personnalité qui, grâce à ses apports théoriques ou pratiques, nous invite à mieux comprendre les systèmes de domination et agir pour plus d'égalité, d'éthique et d'équité, excusez-moi, et d'éthique. Donc, Du Poil sous les bras, c'est d'abord un podcast que la radio a plaisir à diffuser. Et La Petite Blanc a d'ailleurs été interviewée récemment sur la radio, donc vous pouvez déjà retrouver l'interview de La Petite Blanc sur causecommune.fm. On reste un petit peu dans les thématiques d'ailleurs d'aujourd'hui. Deuxième émission qui arrive, et là c'est un peu de l'autopromo, c'est Chemin de Traverse, chaque mercredi en direct à 22h, donc après Du Poil sous les bras. Une émission dans laquelle Julie, Élise, que vous connaissez aussi, Mehdi, qui est mon voisin, et moi-même, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Pour la première, nous avons eu le plaisir de recevoir Nathalie Achard, qui est médiatrice et facilitatrice. Elle organise notamment des formations à la non-violence au sein d'associations. Donc Nathalie Achard a parlé un peu de son parcours, comme aujourd'hui Maud l'a fait, et surtout des liens entre privilèges et oppression. Donc le podcast est en ligne sur causecommune.fm. Et donc je profite de la présence de Julie, car demain soir à 22h, mercredi 18 septembre, nous allons inverser nos rôles. Je serai en régie, tu seras à l'animation et tu vas recevoir Virginie Bonnefond. Alors, explique-nous en 30 secondes qui est Virginie Bonnefond. Alors je suis désolé, je ne t'ai pas prévenu.
Donc demain soir sur Chemin de Traverse, j'animerai l'émission à 22h avec comme invité Virginie Bonnefond. Alors Virginie Bonnefond est une personne qui a un parcours atypique et qui aime aider les autres. Et on va voir comment elle arrive à aider les autres par ce qu'elle est et par ce qu'elle fait. Et alors notamment, ses deux gros sujets à elle, c'est la photographie et les arts. Et c'est le sport. Donc à travers ces deux sujets, ces deux thèmes de sa vie, comment elle arrive à aider les autres et comment elle a eu un parcours incroyable.
D'accord, alors on peut citer là-dedans qu'elle a participé au projet Les 42, faire courir le marathon d'Athènes à 20 jeunes en difficulté. Et côté photographie, elle est co-autrice du livre de L'espoir à la vie, l'histoire d'une promesse médicale qui raconte l'épopée de la première naissance française après une greffe d'utérus. Donc ça va être magnifique et donc ce soir, demain soir, tu seras à l'animation. Et le 25, tu animeras toujours et tu recevras Geoffrey Dan, designer graphique. Et Geoffrey utilise notamment le design pour œuvrer sur des sujets politiques, sociaux, environnementaux pour différentes entités militantes. J'ai l'impression que ça me ressemble à quelqu'un qu'on a eu tout à l'heure au micro. Côté Libre à vous, écoutez, la prochaine émission en direct aura lieu mardi 24 septembre à 15h30. Elle sera animée normalement par ma collègue Isabella Vanni. Nous ne savons pas encore quel est le sujet principal, ce n'est pas encore fixé. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 septembre et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune.
Retour en FM à 21h et retrouvez nos programmes sur causecommune.fm et en DAB+ à Paris.